Sport au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maude Ayotte et je vous remercie d'être à l'écoute aujourd'hui. Avant de vous présenter mes invités, je vous invite à vous abonner à notre série balado sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon et sur toute autre plateforme d'écoute pour vous rattraper et écouter nos épisodes à venir. Dans cet épisode, on va faire un survol du plus récent rapport de l'ICA, intitulé « Recherche sur l'amélioration de l'espérance de vie ». C'est une recherche qui, entre autres, présente des nouvelles constatations sur l'amélioration de l'espérance de vie, mais qui propose également une nouvelle approche visant à élaborer les hypothèses de mortalité à long terme et qui examine les échelles de projection proposées. Pour en discuter davantage, j'accueille au balado les FCA Annie Girard et Hugo Mathieu, qui sont membres du groupe de surveillance chargé de ce projet. Bien, bonjour Annie et Hugo, merci d'avoir accepté notre invitation au balado.
Merci, ça fait plaisir.
Merci, ça fait plaisir.
Alors, pouvez-vous tous les deux partager à notre auditoire un aperçu de vos antécédents respectifs et la façon dont vous avez fait partie du groupe chargé de la surveillance de ce projet?
Donc, mon nom, c'est Hugo Mathieu. Je suis un fellow de l'Institut canadien des actuaires, puis je suis un directeur en consultation des régimes de retraite chez WTW. Puis, un de mes rôles au sein de mon entreprise, c'est d'être responsable des initiatives en matière de mortalité. Donc, quand il y a eu le groupe de travail qui a été formé, qui visait à avoir des représentants du monde de l'industrie de la retraite et de l'assurance, il y a eu un appel à tous qui a été fait. Puis, étant donné mon rôle chez WTW, c'est moi qui ai été sélectionné pour représenter ou être un des représentants du monde de la retraite. Toujours dans une perspective de représentativité, étant donné que le président du groupe de travail provenait du monde de l'assurance, j'ai été nommé le vice-président du groupe pour assurer la dite représentativité.
Et moi, mon nom, c'est Annie Girard. De mon côté, je travaille chez RGA dans le domaine de la réassurance vie depuis le début de ma carrière en actuariat. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans. À travers le temps, j'ai touché à différents rôles. J'ai eu la chance de travailler quelques années à l'extérieur du Canada. Mais aujourd'hui, je suis responsable de la recherche et de l'intelligence des données pour le Canada. Mon équipe supporte le développement de nos hypothèses actuarielles et comme on est un réassureur vie, l'hypothèse d'amélioration de mortalité est évidemment très importante pour nous puis aussi pour nos clients. Donc, c'est important pour moi, mon employeur, de nous impliquer dans ce projet-là pour apprendre, mais aussi pour apporter notre contribution.
Et Hugo, te rappelles-tu encore quand le groupe a rédigé l'appel d'offres en 2020? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails à propos de l'équipe de recherche et nous expliquer pourquoi vous, en tant que groupe, l'avez choisi pour effectuer la recherche?
Oui, absolument. D'abord, je pense qu'il convient de rappeler l'objectif de la dite recherche, qui était de proposer une échelle d'amélioration de mortalité qui rencontrerait les attentes à la fois du monde de l'assurance et de la retraite. Donc, c'est quand même une commande qui était d'une certaine complexité. Donc, on a rédigé un appel d'offres avec cet objectif-là. On a eu plusieurs répondants et la firme qui a été sélectionnée, ça s'appelle Adres. C'est une firme allemande qui se spécialise dans la modélisation de la longévité. Donc, puis les raisons pourquoi on les a choisis, bien d'abord, la modélisation de la longévité, c'est un de leurs segments principaux. Donc, c'est toujours rassurant quand ton consultant et si on veut un de ses son expertise principale, si on veut. Ensuite, étant donné cette expertise-là, on savait qu'ils avaient déjà des bonnes connaissances de qu'est-ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de modélisation de la longévité. C'était vraiment important pour nous de s'inspirer des meilleures pratiques mondiales. Puis un autre aspect qui est intéressant de cette firme-là, c'est qu'ils travaillent en étroite collaboration avec le monde universitaire. Donc, on a eu accès à une batterie d'experts ou de docteurs en statistiques qui pouvaient nous donner nous fournir leur expertise et faire le lien avec ce qui se fait de mieux en recherche dans le monde universitaire. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on en est venu à choisir cette firme de Adres.
Et de ton point de vue personnel, Annie, c'est quoi les principaux points à retenir du projet de recherche et du rapport en particulier?
Je vais me limiter à trois. Je pense que la première chose qui va attirer l'attention, c'est le taux d'amélioration de mortalité à long terme de 1,3. C'est plus élevé que ce qu'on avait sous la MI 2017, qui a un taux ultime de 1. et la CPMB qui est à 0,8. Il faut garder en tête que la méthode utilisée pour arriver au taux long terme est différente de ce qui a été fait dans le passé. Deuxièmement, les taux de mortalité de la population canadienne montrent un effet de cohorte assez clair, surtout chez les hommes. Ce que ça veut dire, c'est que l'amélioration de mortalité varie pas seulement selon l'âge et la période, mais aussi selon l'année de naissance. Si vous regardez les graphiques au début du rapport qui montrent l'amélioration de mortalité historique par année et âge, l'effet de cohorte se traduit par des tendances diagonales, puis on les voit assez clairement dans les graphiques. Et finalement, l'amélioration de mortalité peut être très volatile. L'avantage d'un modèle stochastique, c'est qu'on peut calculer des intervalles de confiance, puis ça, bien, je pense que c'est quelque chose que les actuaires vont apprécier. Dans le rapport, on parle d'une déviation standard de 0,5 environ autour du taux long terme, ce qui n'est pas négligeable.
Et le rapport fait état d'une étroite collaboration entre l'équipe de recherche et le groupe de surveillance. Pourrais-tu décrire, Hugo, le processus de recherche tel que vous l'avez vécu?
Oui, absolument. D'abord, le groupe de surveillance a été vraiment très impliqué dans toutes les étapes de la recherche, incluant la vérification du rapport. Donc, le groupe de supervision était quand même une quinzaine de participants de différentes compagnies pour qu'un peu tout le monde soit de l'industrie soit représenté. Puis, on avait des rencontres mensuelles, en particulier là au début du processus en 2020-21. Et 22. Donc, on avait aussi sur le groupe de surveillance plusieurs membres qui assuraient la liaison avec les différents comités de l'ICA, comme le PPFRC ou CLIFR. Donc, vraiment, on avait des rencontres mensuelles où le chercheur nous montrait les résultats ou ses avancements. On avait l'opportunité là, de poser nos questions et dans certains cas, lui donner des devoirs. Ensuite, ben, il repartait, puis le mois suivant, il revenait avec des réponses et puis des mises à jour en fonction des questions qu'on avait posées. En plus de ça, moi, étant donné que j'étais vice-président du comité, donc moi, le président et le chercheur, on se rencontrait à chaque semaine pour faire un suivi un peu plus serré puis orienter les éléments qui seront à discuter là, lors de la prochaine rencontre mensuelle. Donc vraiment, ça a été une super collaboration entre le chercheur et tous les membres du groupe de supervision. Tout le monde a vraiment pris soin là, d'amener son expertise à la table, donc ça a été vraiment très agréable.
Maintenant, discutons d'un plus haut niveau du processus de recherche en tant que tel.
D'un point de vue, ça s'est décliné en plusieurs étapes, là, ce projet de recherche-là. D'abord, il y a eu une revue de littérature pour qu'on puisse s'inspirer de ce qui se faisait de mieux dans le monde. Il n'y a pas eu tant de recherches en termes d'amélioration de la mortalité au Canada ou du moins pas publié par l'ICA. Donc, ça nous a permis de se familiariser avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Ensuite, on a regardé un peu les données qui nous étaient disponibles, que ce soit la pension de sécurité de vieillesse, le régime de pension du Canada, le régime des rentes du Québec. Il y a aussi ce qu'on appelle la Human Mortality Database, qui est une organisation mondiale qui consolide les données en matière de mortalité des pays développés. Donc, c'est cette dernière source de données-là qui a été utilisée principalement parce qu'elle couvrait plus d'années puis la qualité des données nous apparaissait meilleure là, suite à l'inspection par le chercheur et puis ses recommandations. Ensuite, une fois qu'on a eu choisi les données, on en est venu à la sélection du modèle. Donc, on a testé un petit peu plus qu'une dizaine de modèles avec le chercheur. Puis, les critères en étaient vraiment un de qualité du fit, qualité de l'ajustement. Et ensuite, on voulait s'assurer qu'il y avait une certaine robustesse dans le modèle et dans la projection. C'est-à-dire qu'on voulait s'assurer que, en ajoutant des données ou en enlevant, ça faisait pas trop varier notre modèle. Parce que notre objectif en arrière de la tête était que la méthodologie pourrait être préservée dans le futur à mesure que des nouvelles données allaient devenir disponibles. On allait pouvoir maintenir notre méthodologie et puis juste, bon, mettre à jour le modèle sur une base plus fréquente, toujours en maintenant la même méthodologie. Le modèle qui a été sélectionné, c'est le modèle APCI des actuaires au Royaume-Uni, leur groupe de travail qui s'appelle le CMI, le Continuous Mortality Investigation Group. Donc, on utilise Puis je pense que c'est quand même des leaders en matière d'études de la mortalité au UK. Donc, on a choisi le même modèle qu'eux. Puis, on a aussi utilisé leur méthode d'ajustement qui tient en compte à la fois des projections stochastiques et déterministes pour déterminer notre taux long terme. Donc, vraiment, on s'est fortement inspiré du Royaume-Uni quand il est venu le temps de faire la sélection de notre modèle et de la méthodologie. Donc, voilà.
Et Annie, pourrais-tu décrire le résultat final de cette recherche? Qu'est-ce que ça signifie d'utiliser à la fois un modèle stochastique et un modèle déterministe? Ça semble assez compliqué, mais pourquoi?
Bien, le modèle stochastique, dans le fond, est utilisé pour décrire les données historiques. Donc, autrement dit, ça nous permet d'interpréter ou de simplifier ce qui est vraiment arrivé dans le passé. Le modèle stochastique APCI, il décrit, comme Hugo le disait, comment l'amélioration peut être décomposée en effet d'âge, de période et de cohorte. Mais on peut aussi l'utiliser pour projeter des scénarios stochastiques. Et à ce moment-là, on pourrait choisir la médiane ou un autre percentile des prédictions comme hypothèse d'amélioration de mortalité. Par contre, comme le niveau d'incertitude augmente à mesure qu'on essaie de prédire la mortalité de plus en plus loin dans le futur, et comme c'est plus facile aussi de communiquer ou de comparer un taux d'amélioration unique plutôt que les résultats d'un modèle stochastique, on a dérivé le taux d'amélioration long terme déterministe qui est équivalent à la médiane du modèle stochastique. Le taux de 1,3% il est unisexe et s'applique à tous les âges qu'on a modélisés, c'est-à-dire de 40 à 90 ans.
Alors Hugo, comment l'échelle de projection proposée se compare-t-elle aux échelles existantes CPMB et MI 2017? Ça va être quoi l'incidence de cette nouvelle échelle?
Ben, il y a plusieurs différences entre la nouvelle table d'échelle d'amélioration et la CPMB et la MI 2017. Ben, d'abord, évidemment, on a eu accès à des données qui sont plus récentes. Donc, pour la CPMB, les données se rendaient jusqu'à 2008. Pour la MI 2017, les données se rendaient jusqu'à 2015. Là, pour notre nouvelle échelle, les données se rendaient jusqu'en 2019. Choix qu'on a fait pour décider de... la décision qu'on a prise, c'était de ne pas inclure les données qui étaient affectées par la COVID-19. Ensuite, un autre élément qui est différent, c'est la période de convergence. Donc, par exemple, la CPMB va converger à son taux ultime d'amélioration de la mortalité en 2030 et la MI 2017 va converger en 2033. Donc, plus le temps avance, plus on s'approche de l'hypothèse ultime des deux tables, disons, qui sont le plus utilisées à travers le marché. Donc, c'est pour ça que notre table, on pense qu'elle va être une alternative intéressante parce qu'elle converge en 2049. Donc, l'horizon est beaucoup plus long. Donc, aussi dans la façon que les deux tables présentement sur le marché ont été développées, c'est la première fois qu'on utilise un modèle stochastique sous-jacent avec un effet de cohorte. Puis, c'est la première fois qu'on choisit un taux ultime qui est basé justement sur ces projections-là, en donnant un poids beaucoup moins élevé au jugement des experts par rapport à qu'est-ce que ce taux long terme de mortalité, d'amélioration de la mortalité devrait être. Donc, par exemple, la CPMB pour le taux long terme de mortalité était de 0,8% et pour la MI 2017, c'était de 1%. Et dans les deux cas, ça a été un peu le consensus international ou alors le jugement des experts qui ont amené à ce taux-là. Dans notre cas, le taux d'amélioration de la mortalité à long terme est de 1,3%. Ce qui veut dire que notre prédiction, c'est que nous vivrons plus vieux que ce qui est anticipé avec la CPMB et la MI 2017, augmentant le passif des régimes de retraite et diminuant le passif des assurances-vie, assumant qu'ils utilisaient la CPMB ou la MI 2017.
Et comme Hugo vient de le mentionner, le résultat le plus important de la recherche semble être le taux d'amélioration de la mortalité à long terme de 1,3%. Est-ce que tu pourrais nous donner, Annie, un peu plus de précision sur la façon dont ce taux d'amélioration-là à long terme a été choisi?
Donc, c'était très important pour nous que l'équipe de recherche investigue chacun des choix qu'ils ont faits et quantifie l'impact de chacun de ces choix. Donc, autrement dit, on a testé la sensibilité de différents scénarios au niveau des hypothèses et vous trouverez plus d'informations à ce sujet-là dans le rapport.
Mais encore une fois, Annie, Hugo, gros merci de vous être jointe au balado aujourd'hui.
Ça a été un plaisir. Merci, Maude.
Merci, Maude.
Et à tous ceux et celles qui sont à l'écoute, rendez-vous sur le site web de l'ICEA pour accéder à la recherche, pour en connaître davantage. Et n'oubliez pas que si vous avez une idée pour un futur épisode, ou si vous souhaitez contribuer à notre blog, écrivez-nous à l'adresse balado avec un S à commercial CIA-ICEA.ca pour envoyer vos idées ou nous faire part de votre intérêt à participer en tant qu'invité dans un futur épisode. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'écouter Voir la Tirisque. À la prochaine!